présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Aux États-Unis, la Chambre des représentants approuve l'enquête en destitution contre Donald Trump. Un vote clé cet après-midi, il permettra de faire des auditions publiques dans cette affaire dite aussi ukrainienne. Nous serons en direct avec notre correspondant Loïc Loury. Au début de ce journal, le président Donald Trump dénonce par ailleurs dans un tweet la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. Une fête d'Halloween troublée par des échauffourées à Hong Kong. Les habitants de la région semi-autonome sont toujours mobilisés contre le pouvoir pro-Pékin. Le reportage dans un instant de Florence de Changy. Le dernier opus du jeu vidéo Call of Duty, retiré des ventes par Moscou, des scènes qui montrent des soldats russes bombardant des civils, précision avec Julie Pietri. En France, les syndicats de PSA choqués par le choix des Pays-Bas pour installer le siège commun avec Fiat Chrysler, les élus de la Seine-Saint-Denis mitigés après le plan d'Edouard Philippe pour le département. Enfin, l'armée française cherche à recruter des auteurs de science-fiction, c'est très sérieux. Maxime Tellier a enquêté et c'est notre dossier à la fin de ce journal. Aux États-Unis, la procédure de destitution qui menace le président Trump monte en puissance. Procédure lancée par les démocrates fin septembre. Le parti d'opposition reproche au milliardaire d'avoir abusé de ses pouvoirs pour obtenir des informations sur Joe Biden, son principal rival pour la prochaine présidentielle. Affaire dite aussi ukrainienne, un échange l'été dernier entre Trump et le président Zelensky à Kiev, le premier tentant d'obtenir des informations sur le fils de Biden et ses activités lucratives en Ukraine. Après des auditions à huis clos ces dernières semaines, un vote a été organisé à la Chambre des représentants cet après-midi. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Washington. La Chambre approuve l'enquête en cours, encadre la suite du programme, mais surtout, ce vote permet de mesurer le soutien des élus à cette procédure explosive.
Oui, absolument. Et le verdict est tombé. 232 voix pour, 196 contre. Un bémol pour les démocrates. Deux d'entre eux ont voté contre leur parti alors que les républicains, eux, faisaient front commun. Reste, Anne, que la procédure peut avancer. Le texte qui vient d'être approuvé lui donne enfin un cadre après 5 semaines d'audition. Vous le disiez, à huis clos. Les républicains dénonçaient des méthodes opaques. L'un d'eux, lors du débat, a même brandi une pancarte du Kremlin avec cette inscription. 37 jours de procédure d'impeachment à la mode soviétique. Ce vote devait donc calmer leur colère. Ce n'est visiblement pas le cas. Écoutez cet élu républicain suivi juste après de la réponse d'une démocrate.
Vous voulez savoir à quel point cette procédure est juste? Le texte nomme la Commission des affaires financières comme partie prenante de l'enquête. Or, la présidente de cette même commission, ce mois-ci, a affirmé que Donald Trump devait être mis à l'isolement.
Les auditions seront publiques. Ils peuvent interroger les témoins, présenter des preuves. Notre constitution l'exige. Notre démocratie en dépend.
Voilà, effectivement, le texte prévoit de prochaines auditions publiques, une caution pourtant qui ne semble pas suffisante pour les républicains qui continuent de dénoncer une chasse aux sorcières. Face à cette ligne de conduite inébranlable, les démocrates, eux, ont une réponse toute faite qu'ils répètent à l'envi. Vous ne parlez que de la procédure pour éviter de parler du comportement de Donald Trump.
Loïc Loury, merci. Vous étiez en direct de Washington et effectivement, dans un tweet, Donald Trump a dénoncé la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Notez qu'il est seulement le troisième président américain à faire l'objet d'une procédure de destitution après Andrew Johnson au 19e siècle et Bill Clinton plus récemment. Procédure qui n'a jamais abouti. Pour en savoir plus sur cette procédure, rendez-vous sur notre site internet franceculture.fr. Le groupe État islamique confirme la mort de son chef, Aboubakar al-Baghdadi, tué dimanche par l'armée américaine au nord de la Syrie. L'EI appelle à venger son chef dans un message audio et nomme un successeur. Il s'appelle Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Au Pakistan, à Islamabad, les écoles sont fermées et les entrées dans la capitale pakistanaise très contrôlées. Des milliers de manifestants islamistes sont attendus dans la soirée. Ils réclament la démission du gouvernement. Première contestation politique d'ampleur contre le gouvernement d'Imran Khan au pouvoir depuis l'été 2018. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie utilisent la fête d'Halloween pour tourner en dérision le pouvoir loyaliste à Pékin. Les mobilisations qui ont commencé en juin dernier restent quasi quotidiennes pour dénoncer le recul des libertés et les ingérences de la Chine. Alors que la région semi-autonome vient d'entrer en récession, le Parti communiste chinois s'est engagé cet après-midi à protéger la stabilité du territoire, mais aussi son autonomie. Mais en attendant, sur place, les rassemblements pour la fête d'Halloween ont dégénéré. Florence de Changy.
Lan Kwai Fong sur l'île de Hong Kong, c'est le quartier des bars, des boîtes et des clubs. Les week-ends, la foule afflue pour faire la fête et déborde sur les trottoirs de ces ruelles en pente du quartier de Central. Mais ce soir, la police a décidé d'interrompre les festivités. Locke, un musicien de 28 ans, fait partie de ceux qui crient leur colère au cordon de policiers.
Aujourd'hui, c'est Halloween, n'est-ce pas ? Donc, beaucoup de gens sur Internet se sont mis d'accord pour faire un événement où tous les manifestants se donnent rendez-vous ici pour boire un verre, dépenser de l'argent, faire marcher les bars et les clubs. Mais maintenant, vous voyez ces policiers là-bas ? Ils empêchent la tenue de notre événement. C'est toujours comme ça à Hong Kong. Ils font ce qu'ils veulent.
Action, you know, it always happens in Hong Kong. They can do whatever they want.
La nuit s'annonce encore plus longue qu'à l'habitude à Lan Kwai Fong, où la police a sorti les gaz lacrymogènes et procédé à des arrestations. Mais les manifestants se sont déjà donné rendez-vous samedi pour une nouvelle série d'événements, alors que la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, répète, comme un disque rayé, que la seule solution, c'est que la violence cesse et que pour cela, elle compte sur la police.
Reportage signé Florence de Changy. Au lendemain de la décision chilienne d'annuler la COP25 en décembre prochain, l'Espagne se propose d'accueillir la diplomatie mondiale pour la conférence internationale sur le climat. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a proposé sa capitale Madrid au président chilien, Sebastián Piñera. Deuxième fois que la COP, qui devait se tenir initialement au Brésil, est déplacée. C'est le jeu vidéo le plus vendu au monde, l'un des plus violents aussi peut-être, et le dernier opus de Call of Duty n'est pas le bienvenu en Russie. La nouvelle version est accusée de salir l'image de l'armée russe, un épisode en particulier qui rappelle fortement le conflit syrien. Moscou appelle au boycott et à retirer le jeu de la vente. Les précisions de Julie Pietri.
Cette guerre n'a rien de civil.
L'action se passe dans un pays imaginaire, l'Urzikistan au Moyen-Orient, un territoire en guerre avec sur place organisations terroristes et forces militaires étrangères. Le but était de faire le plus authentique possible, racontent les créateurs du jeu. Dans Call of Duty, les soldats exécutent des civils, bombardent, des armes chimiques touchent les populations. L'Urzikistan ressemble étrangement à la Syrie, où Moscou, avec ses bombardiers, a soutenu Bachar al-Assad dès 2015.
La limite est où on veut qu'elle soit.
Olivier Moko, enseignant à Sciences Po, spécialiste des jeux vidéo.
La Russie a toujours été le grand méchant dans la série des Call of Duty et même dans le jeu vidéo jusque dans les années 90. Hein. La Russie dans le jeu, en tout cas, se représente comme une caution du terrorisme, de la guerre. C'est eux qui les manipulent et qui s'en jouent. Moi, ça m'étonne pas qu'un jeu comme ça, qui est quand même un énorme blockbuster, dont tout le monde va jouer, entendre parler, fasse polémique, parce que c'est un objet culturel aussi important qu'un gros film au cinéma qui sortirait. Donc ça, c'est le premier point. Et malgré tout, c'est vrai que si on regarde les contenus sont assez politiques sans s'annoncer comme tels. Donc on se retrouve dans une situation où un des plus gros produits culturels va faire de la politique sans le dire.
Les héroïnes, elles, ressemblent étrangement aux combattantes kurdes.
Ceux qui envahissent mon pays n'ont aucun respect.
Référence claire, encore une fois. À l'actualité.
L'accord définitif pourrait intervenir dans les prochaines semaines, selon les constructeurs PSA et Fiat Chrysler. Les deux groupes ont confirmé ce matin leur fusion. Une bonne nouvelle pour l'industrie française, selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Quant au chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, il demande de garantir le niveau d'emploi et d'investissement dans son pays. La nouvelle entité, qui deviendrait le numéro 4 du secteur de l'automobile, va implanter son siège aux Pays-Bas, comme Renault. Comme Airbus, les Pays-Bas sont en effet connus pour le système fiscal avantageux. Une décision jugée scandaleuse pour Jean-Pierre Mercier. Il est délégué CGT chez PSA.
C'est assez révélateur quand même du comportement moral, social de ces grands capitalistes, de cette grande famille Peugeot qui, de toute façon, veut faire du fric, veut faire des profits, veut protéger ses profits et veut absolument pas du tout payer sa contribution au fonctionnement de la société à travers ses impôts. C'est un véritable scandale, mais c'est vraiment pas du tout pour m'étonner.
Lorsque PSA dit que le siège aux Pays-Bas, c'est pour une question de neutralité.
Personne n'est dupe. Hein. Tout le monde sait qu'aller aux Pays-Bas, quand on est une grande entreprise, c'est pour ne pas payer d'impôts ou en payer beaucoup moins. Voilà, c'est révélateur d'un comportement social qui est véritablement scandaleux. C'est-à-dire qu'on veut profiter de la société, mais surtout, on ne veut pas payer pour qu'elle fonctionne. Par contre, quand il s'agit de prendre le CICE, les centaines de millions de CICE, quand il s'agit de prendre l'aide publique qui est piochée dans l'impôt de l'ensemble des contribuables, là, par contre, ils sont français, ils sont bien français. Pour eux, l'État, les travailleurs, c'est véritablement une vache à lait. où on peut se servir très largement. Mais par contre, quand il s'agit en contrepartie de payer ses impôts, il n'y a plus personne. Voilà, c'est vraiment révélateur de ce patronat qui veut profiter mais qui veut rien donner.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. À la SNCF, deux autres centres de maintenance des TGV ont été touchés par des débrayages temporaires. Le travail est en cours de reprise selon Sudrail, mais la grève se poursuit au technicentre de Châtillon dédié au TGV Atlantique. 8 TGV sur 10 sont prévus sur l'axe ouest ce week-end. Ambiance toujours tendue, le gouvernement tente de désamorcer alors qu'une grève illimitée s'annonce le 5 décembre contre la réforme des retraites. Le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari et le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye ont invité les syndicats ce matin pour une première réunion de négociation. C'était au ministère de la Santé. Réunion boycottée par Sud et la CGT. Étaient présents l'UNSA et la CFDT cheminots. Négociation complexe, reconnaît Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT.
Il y a deux sujets. Il y a celui de la retraite et il y a le sujet du climat social au sein de la SNCF. Sur les retraites, on a convenu que pour le 22 novembre, on aurait des annonces. Donc on verra le niveau des annonces telles qu'elles seront sur les retraites, si elles répondent à nos attentes. Quant au climat social à la SNCF, si les réponses répondent à nos attentes, aux attentes de la CFDT, il n'y a pas de raison que nous allions dans un conflit le 5 décembre. Mais nous évaluerons ça avec nos troupes dès le 22 novembre. Nous souhaitons la clause du grand-père, c'est-à-dire le maintien des droits pour les cheminots au statut jusqu'au 31-12-2019, c'est-à-dire le régime spécial de cheminots, et une négociation exigeante au niveau de la branche pour les cheminots contractuels et les nouveaux embauchés, puisqu'ils seront embauchés dans le nouveau système de retraite. Le président de la République a dit qu'il regardait cette proposition avec attention sur les ondes très récemment. Bien entendu, ça va être un des points d'accroche, et derrière ça, ça serait de nature quand même globalement à rassurer 135 000 cheminots qui sont au statut aujourd'hui.
Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT, était avec Jeanne Berger. Le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT 93 a été placé en garde à vue après quelques échauffourées avec la police ce midi. Le syndicat avait organisé une manifestation en marge de la venue du Premier ministre à Bobigny, manifestation qui a donné lieu à des échauffourées. Édouard Philippe et plusieurs membres du gouvernement sont en effet venus dévoiler une série de 23 mesures pour redynamiser la Seine-Saint-Denis. 150 policiers supplémentaires, des crédits pour les établissements de santé, des postes de greffiers, de magistrats et surtout une prime de 10 000 euros pour les agents, les enseignants notamment, qui resteraient au moins 5 ans sur le territoire. Un plan qu'Édouard Philippe veut à la hauteur des enjeux.
La Seine-Saint-Denis est hors norme. Le potentiel de la Seine-Saint-Denis est hors norme. Les difficultés de la Seine-Saint-Denis ou des populations qui y résident sont hors norme. L'enjeu, c'est de casser un certain nombre de spirales, non de les entretenir en stigmatisant un territoire. Sécurité, éducation, justice, santé. Le plan de l'État pour la Seine-Saint-Denis vise à réinvestir massivement dans l'ensemble des services publics du département. Notre objectif est effectivement de faire un État fort en Seine-Saint-Denis. C'est un défi immense. La Seine-Saint-Denis ne se contentera pas de mots. Donc, mesdames et messieurs, au travail et à bientôt.
Le Premier ministre Édouard Philippe à Bobigny ce matin, mais pour de nombreux élus du département de la Seine-Saint-Denis, le compte n'y est pas, Rosalie Lafarge.
Non, ils voulaient un Big Bang de l'égalité, il n'a selon eux pas eu lieu. Les élus sont ressortis mitigés de la préfecture de Bobigny. Pour le président socialiste du département, Stéphane Troussel, le diagnostic est le bon, mais le remède n'est pas à la hauteur.
Oui, le diagnostic, il est bon. C'est celui que nous-mêmes nous faisons depuis tant d'années et qui nous a été si longtemps contesté. L'État désormais le reconnaît. Donc ça, c'est un acquis sur lequel nous allons nous appuyer. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rétablir les conditions de l'égalité dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis.
Même la mesure la plus marquante, la prime de fidélisation de 10 000 euros pour les agents qui restent sur le territoire, laisse certains élus sur leur faim, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
C'est mieux que rien, mais c'est pas à la hauteur. Le gel du point d'indice des fonctionnaires depuis 10 ans, depuis 2010, est nettement supérieur par mois en termes de dégradation, de perte du pouvoir d'achat que les 166 euros d'augmentation mensuelle que va signifier ces 10 000 euros.
Certains se félicitent tout de même d'une prise en compte des problèmes du territoire par le gouvernement. Enfin, un début de solution, s'est réjoui le député LR François Cornu-Gentil, auteur d'un rapport accablant sur l'état du département, même si il le reconnaît, le chemin qui reste à parcourir est énorme.
Le reportage de Rosalie Lafarge. La fille de Robert Boulin et son avocate ont rendu les conclusions de la reconstitution officieuse organisée en début de semaine. 40 ans après la mort du ministre gaulliste Robert Boulin, la famille refuse refuse toujours de croire à la thèse du suicide. Alors les investigations ont été relancées en 2015, mais Fabienne Boulin estime qu'elles ne vont pas assez vite. C'est pourquoi, avec son avocate, elle a emmené deux témoins, un médecin urgentiste et un policier. Ils étaient présents sur les lieux le jour où le corps de Robert Boulin a été retrouvé. C'était dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
La famille s'interroge aujourd'hui sur un possible déplacement du corps.
Effectivement, cela fait partie des interrogations de la famille de Robert Boulin. Les témoignages divergent sur l'emplacement du corps de l'ancien ministre. Et selon l'avocate de sa fille, maître Marie Dauzé, cela laisse penser que sa dépouille a été déplacée.
Il a été vu à un endroit précis, pas seulement par le médecin du SMUR, hein. Dans le dossier il y en a d'autres. Mais lorsqu'il arrive, on voit à mon avis beaucoup trop de choses. On voit un visage, on voit du sang, on voit un bras et on voit bien que ça ne peut pas être un noyé. Et puis quand la PJ arrive, eh bien là on a un vrai noyé parce que c'est plus les mêmes lieux. C'est effectivement un endroit où il y a beaucoup plus d'eau et où on ne verrait que la veste avant la sortie du corps.
La famille de Robert Boulin demande donc l'ouverture d'une instruction et que la justice écarte la thèse du suicide. Fabienne Boulin-Burgeat est la fille de Robert Boulin. Elle en est persuadée, son père a été assassiné.
J'attends que les magistrats travaillent, tout simplement. On a demandé il y a 4 ans une quinzaine d'auditions. Bon, ben, il en reste les 2/3. Qu'est-ce qu'on attend alors? Il y avait un témoin très important qui était Philippe Maistre. Ben, il est mort l'année dernière. Donc c'est une perte de chance terrible pour nous. Il faut que la justice fasse cette reconstitution avec tous les témoins qui sont encore vivants. Ce que nous, on n'a pas pu faire parce qu'il y a beaucoup de témoins qui ont très très peur. Ils ont subi quand même des pressions très fortes pour ne pas parler.
En 2015, une nouvelle information judiciaire a été ouverte contre X pour enlèvement et assassinat. Mais 40 ans après la mort de Robert Boulin, sa fille estime que les investigations relancées récemment ne vont pas assez vite.
Compte rendu signé Antoine Marette. Les amateurs de science-fiction seront à Nantes ce week-end. C'est la 20e édition du festival des Utopiales jusqu'à dimanche. Et le genre narratif intéresse de près les militaires. Le ministère des Armées veut recruter une équipe constituée d'auteurs de science-fiction. Une équipe rouge dont la mission serait d'aider les militaires à anticiper les scénarios du futur. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
C'est un projet très sérieux et cette équipe rouge doit être constituée d'ici la fin de l'année.
Oui, l'initiative est soutenue par les plus hautes autorités, hein, commencé par la ministre Florence Parly. Elle a créé l'Agence de l'innovation de défense il y a un an, 1,2 milliard d'euros de budget. Une centaine d'agents dirigés par Emmanuel Kiva qui est à l'origine de cette Red Team.
Le nom vient de la guerre froide. L'armée américaine avait mis en place un bureau qui était chargé de réfléchir comme le pacte de Varsovie. Et donc de confronter les décideurs à des scénarios qui pouvaient être radicalement différents de ce qu'ils avaient en tête à l'époque. Et bien nous, c'est un peu la même idée. Cette idée de Red Team, c'est d'avoir avec nous des gens qui pensent différemment.
Alors sur le papier, l'idée se défend, mais concrètement, que peut apporter un écrivain de science-fiction à un militaire? Eh bien, on a posé la question à celui qui va coordonner cette Red Team, l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui est aussi président du Festival des Utopiales à Nantes.
La science-fiction est évidemment pour moi un genre éminemment utile, loin d'être, comme on le prétend, une littérature, disons, de geek boutonneux dans son coin. C'est une littérature qui peut parler à tout le monde, c'est une littérature qui est éminemment politique, éminemment intéressante.
Et Roland Lehoucq s'appuie sur une première expérience jugée fructueuse il y a 2 ans. C'était aux Utopiales où la marine française avait déjà travaillé avec des écrivains.
Là où les auteurs de science-fiction sont les plus créatifs, c'est pas tant d'inventer. On va pas demander aux auteurs inventez-nous une arme nouvelle. Non. Ce sont peut-être une question d'usage, une question de menace, de nouvelles façons de menacer la France, utilisant des techniques actuelles, mais de façon tout à fait inattendue.
Et la force de la science-fiction est bien là, réfléchir aux conséquences des nouvelles technologies pour les humains, pour la société. Exemple, au début des années 40, les scientifiques américains qui travaillaient sur la bombe atomique étaient de grands lecteurs de revues de science-fiction.
L'éditeur Campbell, il avait sur sa carte des abonnés, sa carte américaine, où il épinglait toutes les villes où il y avait des abonnés. Et il avait constaté qu'il y avait une accumulation d'abonnements dans un endroit qui n'était rien sur la carte, qu'il n'y avait rien. Voilà. Et c'était curieux, c'était Oak Ridge, c'est l'endroit où on a purifié l'uranium, puis le plutonium pour en faire les premières bombes nucléaires.
Et aux États-Unis, il est arrivé déjà que des auteurs de SF soient associés à des programmes comme l'initiative de défense stratégique sous Reagan qui visait à utiliser des satellites pour intercepter les missiles balistiques soviétiques. Un projet abandonné au final. En France, cette Red Team sera là pour aider les militaires qui font de la prospective face à tous les bouleversements technologiques actuels. Emmanuel Kiva nous explique.
tout n'est pas rupture, hein, mais je pense par exemple au quantique. L'arrivée du calcul quantique, de la cryptographie quantique ou des capteurs quantiques sont des choses qui risquent de bouleverser les équilibres, et ce d'autant plus que les Premières Nations qui s'en noteront ne le diront pas forcément aux autres. Et puis on a cette accélération de l'innovation civile, et qu'il faut bien capter, et qu'il faut capter vite, parce que si on ne le capte pas, il y a un risque de nivellement, c'est-à-dire qu'il y a un risque que nos adversaires s'en emparent avant nous. Et donc nous avons l'obligation d'ouvrir notre esprit dans cette période assez foisonnante d'innovation pour ne pas nous laisser surprendre, ne pas subir, c'est ça l'idée.
Et cette Red Team sera d'abord une expérimentation avec moins d'une dizaine d'auteurs qui pourraient se réunir une fois par mois. Leurs travaux seront confidentiels. Si l'exercice fonctionne, il pourrait être pérennisé.
Merci Maxime Tellier. Votre dossier est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo demain, vendredi 1er novembre, un week-end férié qui démarre sous la pluie quasiment partout en France. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné et les températures de 7 degrés jusqu'à 20 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brown. Prochaines informations à 22h, ça sera avec Thomas Larabie.